Grand Angle sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, coup de projecteur sur l'implication de la France dans la guerre au Moyen-Orient. Notre invité, Frédéric Ancel. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Votre dernier ouvrage, La guerre mondiale n'aura pas lieu. La guerre mondiale n'aura pas lieu, c'est publié par Odile Jacob. Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous faire part de la stratégie, de votre regard sur la stratégie de la France dans cette guerre au Moyen-Orient?
La stratégie de la France correspond aux moyens dont dispose la France. Et les moyens dont dispose la France au Moyen-Orient sont relativement faibles. Ils sont d'autant plus faibles que l'Europe puissance, elle, pour l'instant, n'existe pas. Autrement dit, pour l'instant, dans la région, en dépit de la volonté, à mon avis, très légitime du président de la République d'embarquer d'autres États avec lui, on le voit d'ailleurs avec le groupe aéronaval qui a été envoyé sur place, puisque plusieurs frégates d'autres États européens ont accompagné le Charles de Gaulle. En dépit donc de tout cela, la France dispose de leviers assez faibles. Alors, une nuance tout de suite. Loin derrière les États-Unis, qui restent de très très loin, comme je le dis et je l'écris depuis des années, la seule et unique grande puissance du Moyen-Orient, très loin, mais juste après les États-Unis, la France est une puissance considérable.
Donc la C'est-à-dire France est le moteur en Europe.
Alors, Emmanuel Macron voudrait que la France fût moteur. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ça commence à s'affirmer ce rôle-là. Mais en tout cas, il ne faut pas ricaner les possibilités de la France, même si encore une fois, elles sont bien moindres que celles des États-Unis. Pourquoi ? Je le dis en deux mots. Parce que d'abord, nous avons un État allié, militairement allié, hein, avec une alliance défensive contraignante dans la région, les Émirats Arabes Unis. Nous avons une base aérienne en Jordanie.
C'est important, comme vous évoquez, les Émirats Arabes Unis, ces accords qui ont été signés ces
décennies
précédentes, absolument, il y a eu plusieurs accords. Ils jouent rôle particulièrement important aujourd'hui.
Ah bah oui, parce que les Émirats Arabes Unis ont reçu sur la tête des missiles iraniens et des drones iraniens. Donc pour l'instant, à ma connaissance, les Émirats n'ont pas demandé officiellement à la France d'enclencher en quelque sorte la dimension contraignante de cette alliance. Si cela se faisait ou si les Émirats étaient attaqués de manière beaucoup plus massive par l'Iran, il est bien évident que la France devrait intervenir et intervenir militairement, directement. Vous voyez ? Donc si on ajoute à ça que la France dispose de leviers politiques à peu près partout dans la région, on n'est pas une puissance négligeable.
Les Émirats qui disposent d'un système antimissile particulièrement performant, ça s'est illustré ces derniers jours. Comment expliquez-vous le fait que ce pays du Golfe soit particulièrement ciblé par rapport aux autres pays ?
Ah ben, il est très ciblé par l'Iran parce que les Émirats sont une puissance montante dans la région. Alors cela dit, il y a quand même un faux paradoxe. Une partie importante de la caste militaire et politique au pouvoir en Iran à placer son argent aux Émirats. Si vous déstabilisez trop cet État, il va pouvoir riposter en bloquant, en gelant vos avoirs, vous, Iraniens. Donc, on a, à mon avis, affaire à une forme de politique suicidaire de la part de Téhéran. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est vrai dans l'ensemble de la région.
Téhéran qui est isolé aujourd'hui ?
Complètement.
Malgré ses proxys ?
Complètement. Ah, alors, votre question est intéressante. Vous dites, malgré ses proxys, avec raison. C'est-à-dire que, en fait, sauf trois groupes infra-étatiques, mais qui ont été très durement frappés par Israël ces dernières années, à commencer par le Hezbollah et encore au moment où l'on parle, l'Iran ne dispose d'absolument aucun allié étatique. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce que beaucoup trop d'observateurs, de manière paresseuse ces dernières années, n'ont cessé de parler d'un axe Moscou-Pékin-Téhéran ou d'un axe Moscou-Pékin-Téhéran-Caracas. C'est ridicule. Statutairement, j'emploie un terme fort, c'est ridicule. Statutairement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'accord d'alliance militaire contraignante entre Moscou et Téhéran ou entre Pékin et Téhéran. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui à quel point ces deux capitales sont en retrait, pas seulement pour des questions liées à la difficulté militaire, par exemple, de Moscou en Ukraine, mais parce qu'elles n'ont pas statutairement à intervenir. Si on ajoute à ça qu'il faudrait intervenir en faveur de l'Iran aujourd'hui, challenger ou en tout cas défier deux groupes aéronavals américains, non, écoutez, c'est pas sérieux. Donc oui, l'Iran, clairement, étatiquement, est seul.
Vous avez évoqué le rôle de la France dans cette guerre, la France qui mène une action importante vis-à-vis de son partenaire historique, vis-à-vis du Liban, le Liban qui s'est retrouvé dans cette guerre à cause des attaques du Hezbollah. Comment vous évaluez justement le rôle de la France au Liban ?
Je vous dirais d'abord que Jean-Yves Le Drian, qui est le représentant spécial du président de la République au Liban, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, comme il l'a dit à plusieurs reprises ces derniers jours, a bien fait donc de pointer la responsabilité du Hezbollah. Alors, je le dis avec d'autant plus de force et de vigueur que le gouvernement, l'exécutif libanais, le gouvernement libanais, le parlement libanais, mais attendez, même Amal, qui est la milice et le parti politique chiite qui a toujours été allié au Hezbollah, en tout cas depuis la fin des années 80, tout le monde considère que ça suffit, que le Hezbollah obéit et obtempère aveuglément à Téhéran depuis la création, depuis sa création d'ailleurs ex nihilo en 82 par la République islamique, et que là, comme l'a très bien titré Lorient Le Jour, le Hezbollah suicide le Liban. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut absolument que la France réussisse, elle l'a fait d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'histoire, réussisse à convaincre un certain nombre de caciques du Hezbollah, c'est pas facile, à convaincre un certain nombre de donateurs internationaux, c'est pas facile, mais ça a déjà été fait, en l'occurrence de soutenir davantage le pouvoir étatique libanais et l'armée libanaise, et enfin à convaincre Israël, c'est pas facile non plus, de se mettre autour d'une table et d'en finir. Le Hezbollah a parfaitement le droit d'être un parti, enfin d'un mouvement éducatif, social, religieux et même un parti politique, mais il doit absolument désarmer. Et entre parenthèses...
Voilà, vous parlez de la branche politique du Hezbollah. La branche armée du Hezbollah a été interdite par le gouvernement libanais, interdite en tous les cas de mener des actions.
Ah oui, mais enfin, parce que je me permets quand même de rappeler que depuis les accords de Taif, qui sont des accords interarabes, ça ne s'est pas fait au Likoud ou à MAGA à Washington. Hein. Les accords de Taif interarabes et intra-libanais de 1989, donc mettant fin, enfin illustrant la fin de la terrible guerre civile libanaise à l'époque, interdisent l'armement de tous les partis et de toutes les milices. Ça a été fait sauf pour le Hezbollah. Comment l'expliquez-vous ? Donc pendant un certain nombre d'années, notamment pendant les années 2000, le Hezbollah, avec son allié syrien, mais qui aujourd'hui n'existe plus, dont la tête est voisine aujourd'hui à Moscou de M. Poutine. Bon, et non pas en soutien, mais en obéissance absolue à Téhéran, le Hezbollah, donc, après 89, a continué à exercer des activités militaires, policières, au sens le plus totalitaire du terme, narcotrafiquantes également, au Liban. Et aujourd'hui, les Libanais tapent du poing sur la table en disant « ça suffit ».
Quelle alternative en Iran, si le régime chutait? Et puis, avec cette question, je me permets de vous en poser une autre. Les États-Unis misaient sur une révolte de la population suite à ces attaques. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Est-ce que d'abord le régime pourrait chuter dans les mois à venir et comment ça pourrait intervenir ?
Je vais peut-être vous surprendre, mais je suis pessimiste. Je l'étais déjà à l'époque de Femmes, Vie, Liberté. Je l'étais en janvier dernier, d'abord, pendant les massacres perpétrés par le pouvoir sur la population. Je l'étais l'an dernier, il y a deux ans, avec Femmes, Vie, Liberté. Je l'étais lors des manifestations de 2009. Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis un vieux géopolitologue. Et moi, je pense qu'un régime tombe sur la base de facteurs très, très concrets liés à des rapports de force. Le régime, surtout, c'est un régime fanatique, théocratique en l'occurrence, ne va pas chuter seul si au moins une partie de l'armée régulière ne fait pas défection. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ou si, à la frontière, il n'y a pas une tentative d'invasion, de création donc d'un front militaire à partir d'un pays voisin, et c'est rigoureusement impossible dans la configuration moyen-orientale actuelle. Et donc, à main nue, de manière héroïque, les Iraniens se soulèvent contre le pouvoir, mais comment voulez-vous qu'ils y parviennent à le faire chuter ? Maintenant, si vous me posez la question de Trump, Trump est d'un cynisme au dernier degré, Trump se fiche complètement de la population iranienne, la nature du régime ne l'intéresse pas.
Justement, qu'est-ce que Donald Trump cherche en Iran ? Il y a le narratif et il y a la réalité.
Une région pacifiée, dans laquelle la République islamique d'Iran ne pourrait plus projeter de puissance, de violence plus ou moins toxique, avec donc des proxys en gênant les alliés de M. Trump, pardon, les fournisseurs et les clients de M. Trump, parce que lui fonctionne de manière totalement mercantiliste, hein, je l'ai dit à maintes reprises, et une façon donc de la capacité de multiplier les consortiums, les investissements, et notamment des investissements à partir de cette région, donc pacifiée, aux États-Unis. Hein. Je rappelle toujours que la variable principale de prise de décision de M. Trump n'est pas de l'ordre du politique ou du militaire. Elle est de l'ordre de l'économique et du mercantiliste. Et je pense que c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles il a décidé de faire la guerre. J'ajoute quand même un point fondamental, qu'on oublie trop souvent, dans toute cette équation, c'est le nucléaire. Je veux dire, là, les choses sont claires. Hein. L'Iran transgresse clairement le traité de non-prolifération nucléaire. Alors, après, on peut me dire, oui, mais l'Inde, le Pakistan n'avait pas signé, Israël n'en parle pas, la Corée du Nord, tout ce qu'on veut. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que les Israéliens, parce qu'ils sont directement menacés par cette république depuis 1979, très officiellement, hein, les États de la région, comme l'Arabie Saoudite par exemple, mais même la Turquie, bon, d'autres États comme le Pakistan, qui, lui, est doté de la bombe, bref, personne ne veut que le verrou du traité de non-prolifération de 68 saute pour la première fois. Et j'ajoute un dernier point, les Chinois, pas davantage que les autres. La Chine ne veut pas d'une course au nucléaire, d'une prolifération. Donc en fait, le monde entier ne veut pas de la bombe. Et de ce point de vue-là, je pense que ce qui est en train de se produire, je vais peut-être vous surprendre, hein, c'est un peu un faux paradoxe, en plein combat, c'est le sauvetage du traité de non-prolifération nucléaire.
Merci. Frédéric Roussel, je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de « La guerre mondiale n'aura pas lieu » chez Odile Jacob. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.